lundi. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. Prenez soin de vos cheveux, ça a l'air, c'est super important. Marceau s'en vient. À demain, les amis.
6h du matin, le cadran sonne. J'ouvre la radio. Trop de musique. Je change de poste pour entendre parler.
Oui, oui, encore des taxes, ben oui.
Ça fait que chialer. Du coup, j'ai fermé la radio. Ma copine me dit...
Voyons, pourquoi t'as fermé la radio?
Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Au travail, j'ai parlé de mon problème à Jean-Steve. Il a toujours de bons conseils.
10% de ta paye, drette dans un CELI.
Il m'a parlé d'une radio.
Connais-tu ça, Boulevard 102?
Je lui ai dit que non. Il m'a dit...
Non, faut que t'écoutes ça.
Bref, maintenant j'écoute Boulevard 102. Merci Jean-Steve.
Boulevard 102. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
102. Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va passer certainement 60 minutes de feu, puisque ce soir, en remplacement de Maître Marc Bellemare, ben, j'ai le plaisir d'accueillir Doc Boucher, Doc Denis Boucher. Salut!
Hey, comment ça va, Yannick?
Ça va très bien. J'étais supposé être avec Maître Bellemare comme à chaque lundi.
OK.
Et là, Maître Bellemare a demandé à son patron, c'est-à-dire moi, est-ce qu'il okay. pouvait prendre congé. Il y avait d'autres choses à faire.
Fait que là, OK. J'ai...
Ben oui, monsieur employé, vous pouvez prendre congé. Donc, Maître Bellemare a repris congé. Donc,
bon,
oui.
Tu diras de m'envoyer un petit merci, hein, parce que je suis là à sa place.
Ben oui, ben oui, puis on est content que tu sois là, Doc. Écoute, j'ai plein de sujets à jaser.
Vas-y.
Avec toi. Juste avant, présente-toi aux auditeurs. Doc Boucher, c'est qui ça dans la vie, puis qu'est-ce qu'il fait?
OK, j'ai un grand titre qui s'appelle « Docteur en médecine expérimentale ». Tout ceci pour dire que j'ai été formé en recherche médicale.
Ouais.
Ma base, c'était la physiologie de l'exercice, métabolisme. Et depuis des années, j'ai travaillé en performance sportive, beaucoup. Mais depuis des années, mon créneau principal, c'est la perte de poids. Avec l'analyse du métabolisme, l'évaluation de la condition physique, cibler des programmes personnalisés.
Puis à cette heure, on te voit partout depuis des années, des années. On t'entend ouais. à radio. Là, on te voit. Tu fais de la radio à TV avec Cube.
Oui, oui.
Tu es avec Sophie Durocher. J'ai intercepté une entrevue que tu as faite avec Mario Dumont où tu parlais des astronautes dans l'espace qui doivent s'entraîner.
Ouais.
Ouais. Là, ces gens-là sont pendant des mois et des mois dans l'espace, sont en apesanteur, doivent s'entraîner, doivent absolument le faire pour rester en forme. C'est-tu suffisant, ces entraînements-là, pour qu'ils puissent revenir ici avec une certaine forme musculaire pour pas juste s'écraser à terre?
Non, c'est 2 heures par jour et c'est pas suffisant. Puis là, dans le cadre que tu parles, moi, j'étais allé aux États-Unis. Je vais te mettre en contexte, OK, pour que les gens comprennent pourquoi je suis arrivé là. C'est que j'ai travaillé dans un laboratoire pendant 18 ans. J'ai eu un laboratoire de physiologie, c'est-à-dire que tu venais dans mon laboratoire, je t'évaluais, OK? Mais j'étais statique. Arrive 2008, l'émergence des biosenseurs, tu sais, ta montre que t'as, là, qui te prend toutes sortes de données.
Ouais.
Bon, ben, tu sais, ça a l'air bien normal aujourd'hui, mais tu remontes à 2008, c'était pas évident. Ce qui fait que j'avais un partenaire, qui était François Ruel, qui était ingénieur. Nous autres, on a travaillé avec les accéléromètres des téléphones pour développer les nouveaux tests qu'on avait fait avec les Flyers de Philadelphie.
Mm-hmm.
Donc, on était capable de, au lieu que j'ai une série de données de laboratoire, j'avais des milliers et des millions de données physiologiques en temps réel chez un individu dans son environnement, qui pouvaient être les tests sur glace, qui pouvaient être un coureur et tout ça. Et donc, comme il y avait beaucoup de données et que dans du big data comme ça, tu peux te perdre parce que tu n'as aucune idée de quoi analyser, moi, j'ai réussi à créer des contextes d'analyse. Et mon ingénieur, lui, il a tout pris ça. Il a colligé les données dans les algorithmes que j'avais créés et on avait un portrait physiologique vraiment complet et impressionnant des athlètes qu'on mesurait, des gens sur le terrain. Ce qui fait qu'arrive la notion de mission sur Mars, là, moi, ça va faire 6 ans que je suis allé.
Sur Mars,
oui. Je suis revenu vivant. Et arrive à Houston, tu as la National Space Biomedical Institute, l'Institut biomédical spatial de Houston,
ouais.
qui entend parler de ce qu'on fait. Et étant curieux, il nous invite. Fait que là, moi, je pars avec mon partner François Ruel, puis on s'en va à Houston. Et eux, c'est l'organisme qui met en contact les scientifiques comme moi avec la NASA. Et là, ils sont intéressés à comprendre comment on fait, parce que la grosse problématique, c'est, là, on envoie des gens sur Mars. Le voyage va être 12 mois. Ils vont rester un mois là-bas. Ils vont revenir, ça va reprendre 12 mois. Peut-être 18 mois selon l'angle de Mars par rapport avec la Terre. on a des pertes de masse musculaire incroyables, des pertes de masse osseuse incroyables. Il y a de la perte de coordination motrice. Même les astronautes qui sont dans l'espace, quand ils reviennent, ils ont des problèmes de vision. Et là, ils ne savent pas, est-ce que c'est des problèmes de déformation du globe oculaire à cause de la pesanteur? Donc, quand je suis allé, ils faisaient des tests sur le terrain avec des astronautes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Le drôle, c'était, écoute, les astronautes, c'est des gens de 40 ans, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes de vision. Est-ce que c'est l'espace? Est-ce que c'est l'âge? Donc, ils étaient en train d'évaluer ça. Nous, on y va, puis on explique, bien, écoute, voici comment nous, on le fait sur Terre, mais arrive dans l'espace où, oui, on est capable d'avoir de l'information à distance des astronautes, leur entrer dans nos algorithmes, puis vous sortir un portrait physiologique en temps réel. Maintenant, vous cherchez des... Eux autres, ils appellent ça des contre-mesures, des moyens de prévenir la perte de masse musculaire dans l'espace. Le 2 heures d'entraînement, il n'est pas suffisant. Maintenant, il faut trouver comment le mesurer. Qu'est-ce qu'on fait? La nutrition est-elle adaptée? Tu comprends? Il y a un contexte global à laquelle on n'a pas de réponse pour le moment. Parce qu'on n'a pas... Moi, je peux avoir les meilleures idées du monde, là, mais tant que je ne l'ai pas testé dans l'espace, j'ai aucune idée si ça fonctionne. Comme une des questions, tu vas dire, ben, voyons, Denis, il y a des choses qui pourraient marcher. Une des questions qu'ils ont, là, à un moment donné, ils ne seront pas 3 ans abstinents dans l'espace. Une femme peut-elle porter un enfant dans l'espace?
Ben, techniquement... Sur Terre, oui, mais là-bas, on ne sait pas comment ça peut se passer.
On ne sait pas en tout.
Qu'est-ce que ça va donner comme enfant? Le fœtus va-t-il être normal?
C'est ça.
Dans son développement?
On ne sait rien de ça. On rentre dans un nouveau monde où tout est à faire. Et c'est ça qui était fascinant. Moi, j'arrivais au moment où tout est à construire. Là. On a des hypothèses, mais on ne sait rien.
Okay. Les astronautes, là, quand ils sont en haut, tu dis, bon, il y a une perte de masse musculaire. Ça, on le savait. Il y a une perte de masse osseuse aussi.
Oui, parce que ton muscle, tu sais, les gens, surtout les femmes qui font de l'ostéoporose, là,
ouais.
On pense que c'est parce qu'il manque de calcium. C'est qu'il arrive un moment donné qu'il n'y a plus de stimulation. Ton muscle est connecté par des tendons à tes os. Quand tu bouges un muscle, la tension qui est exercée sur l'os, c'est ce qui le stimule à maintenir une densité osseuse normale et même à en prendre davantage.
OK.
Alors, chez les femmes, ce que tu vas voir, c'est qu'avec la perte de fonctionnalité, la perte d'entraînement, la diminution de l'entraînement, la perte de masse musculaire, la masse osseuse diminue. Et tu as le même phénomène dans l'espace, parce que là, tu n'as plus aucune stimulation, là, c'est zéro. Tu sais, notre première ligne de résistance à l'heure actuelle, c'est la gravité qu'on a partout. Lève ton bras gauche, ta résistance que tu sens, ton deltoïde est obligé de travailler, bien ça, c'est la gravité. Suite à ça, quand tu veux plus de développement, là, tu rentres avec de l'entraînement, avec de la charge mécanique plus grande. Mais dans l'espace, tu es à zéro. Et tu as une plus grande perte de masse musculaire au niveau des jambes que tu l'as au niveau des bras.
Est-ce qu'on sait pourquoi?
Oui, parce qu'ils bougent encore des boutons. Tu comprends? Ils vont travailler des bras, ils vont avoir une certaine résistance minimale qui fait que, OK, c'est drôle, ça stimule suffisamment pour que ta masse musculaire au niveau du haut du corps soit plus grande que ta masse au niveau des jambes. Parce que tes jambes sont toujours en train de flotter. Tu dors, tu es en train de flotter. Hein? Soit que tu es attaché ou peu. Et ça amène toutes ces considérations de quand j'ai quelqu'un qui va partir pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, comment il va revenir? Là, on est capable de les récupérer. Là. Les astronautes, quand ils reviennent avec les durées de voyage de 1 an, OK, ils reviennent, ils ne sont pas terribles sur Terre, mais ça se récupère tout ça. Mais est-ce qu'il y a une limite dans le temps où ça ne se récupérera plus?
Bien, écoute, moi, je veux dire, j'ai pas tes connaissances, mais techniquement, oui, là, tu sais, je veux dire, juste de manger, je veux dire, quand tu manges, tu es comme en position assise ou tu peux manger debout, tu mets ça dans ta bouche, ça descend, puis après ça, le processus s'enclenche. Quand tu es dans l'espace, là, le haut, le bas, le côté...
Il n'y en a pas.
Il n'y en a plus, tu sais, donc boire de l'eau, faut qu'elle descende dans l'espace. Est-ce qu'elle descend aussi bien? Est-ce qu'elle va exactement aux bonnes places? La nourriture, c'est la même affaire. Est-ce que le travail se fait aussi bien?
Bien, il y a du travail. Le travail se fait mécaniquement presque pareil. Je sais qu'il y a des différences. Je ne l'ai pas étudié à fond, cet aspect-là. Mais tu sais, on appelle ça du péristaltisme. C'est le muscle qui forme des ondes puis qui amène à l'estomac.
Ouais.
Donc, généralement, ça va assez bien.
La circulation du sang, c'est la même chose.
Très différente, là, parce que là, t'as un pooling, excuse-moi le terme anglicisme, t'as un pooling veineux qui va se faire plus au niveau du haut du corps, t'as plus de congestion au niveau du visage à ce moment-là, parce que la gravité fait en sorte que quand ton cœur pompe,
ouais,
ton sang va redescendre dans la périphérie. Mais là, t'as plus de gravité.
Non, t'as raison. Et puis Chris Hadfield me l'avait dit, l'astronaute Chris Hadfield, il avait enregistré une chanson dans l'espace.
Oui.
Puis Space Oddity. Je sais pas si tu l'avais déjà entendu, là, celle que lui a fait, mais il a fait un vidéoclip, puis il chante dans l'espace, c'était le capitaine de la mission. Puis il m'avait dit, oui, puis quand vous regardez la vidéo, regardez mon visage, il est vraiment enflé.
Ouais.
Donc c'est à cause de ça, c'est la circulation sanguine qui se fait pas nécessairement bien.
Le cœur va se modifier, parce que ton cœur, c'est un muscle aussi, là.
Ouais.
Donc, t'as pas de gravité, il va pomper différemment, le système cardiovasculaire va être modifié. Donc, tous les impacts à long terme, on les connaît pas vraiment. Là. Et c'est tout ça qu'ils sont en train d'essayer de prévoir. Puis là, j'ai vu Elon Musk, là, de Tesla, lui prévoit un premier voyage sur Mars dans 4 ans. Je sais pas s'il a pété des plombs là, ou si ça va, si c'est vraiment ça.
Ben, s'il y en a un qui peut le faire,
c'est lui.
C'est
lui, oui.
Mais je veux dire, qui va accepter d'embarquer là-dedans? T'sais, est-ce qu'on va retrouver des gens de tête brûlée comme Neil Armstrong, qui est un génie, mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait le goût du risque.
Ah, c'est des prises de risque énormes. Ben c'est ça. C'est qu'il faut que tu ailles vers des gens qui sont prêts à prendre des risques énormes. Ouais. C'est assez incroyable. Et puis, il y avait des détails fascinants, parce que moi, ils m'ont fait faire le tour des laboratoires là, sur place. Là. Puis, je te donne un exemple. Ils m'amènent à une place. Il y avait des astronautes en capsule. C'est-à-dire, c'était le laboratoire d'astrobiologie médicale. Pour vérifier les modifications génétiques des rayons cosmiques. Parce que sur Terre, on est protégé par le champ magnétique terrestre, par l'atmosphère. Mais quand tu arrives dans l'espace, le rayonnement cosmique est 1000 fois plus élevé. Donc, tu as des mutations génétiques qui peuvent se faire. Donc, ils prennent l'ADN des astronautes qui veulent collaborer. Puis, ils mesurent l'impact de leur voyage sur leur génétique. Fait que c'est toutes des petites boîtes, tous des petits astronautes en boîte, là, puis ils analysent la génétique.
Puis, les deux heures d'exercice que les astronautes peuvent faire quand ils sont dans l'espace, tu me dis, c'est pas suffisant. Y a-tu quelque chose qu'ils pourraient faire qui serait à peu près l'équivalent de ce qu'ils peuvent faire sur Terre?
C'est ça que j'ai pas de réponse encore.
C'est des élastiques? Ils vont avec les élastiques?
Oui, bien, ils ont comme... moi, ce que j'ai vu souvent, c'est une espèce de planche avec de la résistance. Là, c'est comme un rameur debout, là, qui vont... Bon, ben ça, c'est une base, un vélo pour créer de la résistance. Il faut vraiment qu'ils mettent de la résistance. Tout le temps. C'est vraiment ma question. Parce que là, tu sais, je t'expliquais dans le développement musculaire, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on le comprend bien sur Terre. Ça te prend une charge mécanique, donc tu vas lever des poids, qui va créer un stress métabolique. Donc, ton muscle, recevant le message de la charge mécanique, va libérer un tas d'hormones qui va dire à tes fibres musculaires, adapte-toi. Okay? Ça, c'est la base du développement. Mais là, tu n'as plus de charge en haut. Moi, ma question est toujours, est-ce que je peux leurrer le corps humain pour y faire croire que même s'il est en apesanteur, il reçoit une charge mécanique? Tu comprends? Je ne pourrais pas faire un astronaute sans l'y entraîner 6 heures par jour, hein? T'sais, il serait plus fonctionnel, il serait fatigué, ça n'aurait pas de bon sens. Est-ce que je peux passer par un autre moyen de comprendre ce stress métabolique-là, de créer éventuellement un médicament qui le déclencherait ou de créer une perception qui déclencherait ce mécanisme-là? Parce qu'à l'heure actuelle, il est seulement déclenché par la charge mécanique. Il est seulement déclenché par la gravité, la charge mécanique. Donc, ma question qui flotte dans mon esprit depuis toutes ces années, c'est comment je peux contourner le processus? Comment je peux leurrer le corps et faire croire que même en apesanteur, il y a une charge mécanique?
Je trouve ça intéressant. Si tu trouves la réponse...
Sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont dit quand j'ai dit ça?
Multimillionnaire.
Là-bas, ils m'ont dit, si tu nous arrives avec la réponse, tu peux même pas t'imaginer l'argent que tu vas faire. Mais Yannick, ça serait pas juste ça qui serait fascinant. Imagine tous les cas de problématiques de dégénérescence musculaire, tous les, dystrophie musculaire, c'est toutes les problématiques musculaires. Probablement qu'on arriverait avec une stratégie comme ça à en régler beaucoup, à tamponner beaucoup des problèmes qui seraient présents sur Terre. Ce serait une révolution incroyable.
Advenant le cas où est-ce qu'ils sont capables de recréer une certaine gravité?
Non, pas pour le moment, parce que ça te prend. T'as-tu vu 2 millions d'ici de l'espace?
Oui.
Le gars qui court là, dans le cerceau, là, parce que ça, c'est comme une centrifugeuse.
Oui.
Mais ça, ils l'ont pas.
Non.
Ils sont pas capables pour le moment de créer une gravité artificielle.
Fait qu'ils pourraient mettre ça temporairement sur Mars le temps que les astronautes puissent faire le travail puis repartir.
Hey, je pense pas. Je pense pas pour le moment. C'est vrai. Je pense pas que technologiquement on soit rendu là. Le jour où on va l'être, oui, ça va vraiment être très utile. Là. Si tu pars avec ton vaisseau spatial, tu as ta centrifugeuse puis tu vas marcher tout le long de ton cerceau, ben tu vas être en gravité.
Oui.
Mais là, je pense pas qu'on y soit.
Faire l'amour dans l'espace, on sait que c'est possible, mais accoucher, je veux dire,
accoucher,
fabriquer un bébé dans l'espace pendant 9 mois, puis après ça, accoucher, je sais pas si le bébé pourrait être normalement constitué.
Écoute, c'est ça la question. Eux autres même le savent pas. On le sait pas. T'sais, c'est peut-être que dans le développement, tu sais, il y a deux hypothèses opposées, là. Peut-être que le corps humain ne sera pas capable de se développer dans l'espace à cause de l'absence de gravité, ou la puissance énergétique de l'embryon dans son développement ferait en sorte qu'elle pourrait contrer l'absence de gravité et avoir un développement normal. Mais tu sais, c'est comme je tire à pile ou face là, dans ce que je te dis. Clic, clic, je ne sais pas. Fait que le jour où ça va arriver, comment tu vas le gérer? Des choses anodines là, qui sont obligées de penser dans l'espace. Mettons, il envoie 4 astronautes. OK? Il peut arriver des accidents. OK? Il n'enverra pas. Mettons qu'un astronaute se fracture un bras ou une jambe. Là. Ils n'enverront pas par astronaute 2 attelles pour les bras puis 2 attelles pour les jambes. Ils scannent leur corps en 3D. Il y a une imprimante avec une quantité de plastique connue dans la station. Puis s'il y a un astronaute qui se casse le bras droit, bien sur Terre, ils vont envoyer l'ordre d'imprimer l'attelle du bras droit.
C'est fou. Hein?
Des aiguilles, les seringues vont être imprimées. Ils ne peuvent pas partir avec une quantité pour 4 astronautes. Fait qu'il va y avoir des calculs pour dire, bon, ben on s'attend à telle quantité de seringues à imprimer. Ben ils vont avoir le plastique pour faire les impressions 3D des seringues. Ils m'ont montré les seringues.
Puis la nourriture, ils vont faire quoi?
Écoute, la nourriture, ça va être beaucoup du sachet. Tu n'auras pas le choix. Là,
faut que tu trouves de l'eau.
Oui, ben dans l'eau, tout est recyclé dans les stations. Là. Ton pipi est recyclé. Là. Tout est réusiné.
Hey, on n'est pas assez proche. Doc, on n'est pas assez proche.
Non. Gardons-nous une petite gêne.
Tu sais quoi? Je pourrais être Neil Armstrong numéro 2, mais à partir du moment où tu me dis, ben ce que tu bois là, ça a été recyclé, tout ça. Je serai Neil Armstrong numéro 27.
Ah oui, c'est ça. Oui, exact. Tu vas te donner un petit peu de temps.
Mais quelle belle expérience quand même. Hey, j'ai des petites questions à te poser, Doc, par rapport à ma fameuse montre intelligente.
Ah oui?
Tu trouves-tu qu'on est rendu fou avec ces montres intelligentes?
Il faut que je te raconte une affaire. Je descends, je m'en vais faire l'épicerie, puis je descends, puis il y a une petite côte, puis je vois une pauvre madame en train de courir. Puis pendant le 10 secondes où je la vois, elle regarde sa montre 5 fois.
OK.
Et là, je me disais, pauvre elle. Quelle connerie. Les gens ont un tas de data, un tas de données, qu'ils ne savent pas comment utiliser, et ils ne font que regarder ça. C'est atroce comme style d'entraînement. Sincèrement, là. Moi, ce que j'ai fait avec mes clients, c'est vraiment de leur dire, voici, tu pars d'une telle fréquence cardiaque, dans tant de temps, tu te rends à une autre fréquence cardiaque, OK? Tu vas mesurer ça, puis un coup que tu es habitué, bien, oublie ça, là, tu le fais naturellement. Mais les gens sont là, puis ils regardent leur montre. Et en plus, c'est fou, tu montes là, il faut que je t'explique une affaire. Si tu vas à l'hôpital, puis te mettre l'oxymètre, tu sais, l'affaire sur le bout du doigt.
Le CG?
Pour mesurer ta quantité d'oxygène dans le sang.
Ouais,
okay. Bon, ben ça, c'est une lumière rouge. Okay, qui est beaucoup plus efficace pour la lecture des données physiologiques. Ces montres-là, c'est une lumière verte. Donc, qui est très sensible au mouvement, qui est très sensible au poil que tu as ses bras. Si elle est mal positionnée, elle est trop sur ton os du poignet, ta lecture va être pas très bonne. Donc, là-dedans, et tes algorithmes pour mesurer ta dépense énergétique, là, c'est au mouvement du bras. Donc, si tu es un gars qui gesticule beaucoup des bras, mais que tu restes assis, ta montre va calculer que tu dépenses d'énergie. Et tes lectures de fréquence cardiaque vont être plus ou moins très bonnes, plus ou moins bonnes dans le temps. Parce qu'il peut y avoir des. Je te donne un exemple. Moi, je vais faire des tests progressifs aux gens. Je leur dis, envoie-moi tes données. Il y a quelqu'un qui peut être à 85 battements par minute, puis 30 secondes plus tard, il est rendu à 140.
Et tabarouette.
Tu comprends que la montre n'a pas fait sa job correctement.
Là, elle vient de me dire que j'ai 96%. Ça, c'est mon taux d'oxygène sanguin.
Bon, c'est bon. Très bon.
Je suis sur le point de mourir, là?
Non, tu es sur le point d'être très
fonctionnel. Parce que je me suis fait du fun avec ça les premières journées, Doc. Tu sais, je faisais des ECG, là.
Ouais, une dérivation.
Des électrocardiogrammes. Tu sais, je vérifiais si tout était correct. Mais à un moment donné, tu passes à d'autres choses. Tu te dis, c'est à quoi ça sert, là, d'être constamment rêvé sur ma montre intelligente?
Ben oui. Ben, puis tu sais, si tu fais l'interprétation toi-même, hey, écoute, tu vas voir ton cardiologue, hey, ma montre m'a dit que je devais me faire tester, puis tu arrives au cardiologue, puis tout est beau, il va dire « lâche ta montre, là ». Tu sais, c'est pas... c'est intéressant, c'est loin d'être parfait.
Ouais. C'est le ça. Sommeil, quand tu mets ta montre pour dormir, elle calcule ton sommeil profond puis toutes ces affaires.
Oui, mais as-tu compris qu'elle calcule pas ton cerveau, là? Elle calcule tes mouvements.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, si tu veux savoir si t'es vraiment dans un sommeil profond, faut que je te mette un petit casque à la tête avec des électrodes.
Mais ma montre, elle peut pas faire ça.
Ta montre, c'est pas ça qu'elle fait.
C'est vraiment ça, juste si elle va calculer pas quand un certain temps.
Oui, ben je connais pas tout l'algorithme, comment il est fait, mais il faut que ça soit calculé à travers le mouvement. Mais
tu, bref, les premiers jours, je te dirais que je me suis amusé pas mal avec ça. Je regardais aussi parce que je peux avoir accès à des entraînements. Mettons que je veux entraîner mes merveilleux pectoraux.
Pectoraux, oui.
Ben là, je tape pectoraux, puis là, ils me montrent des exercices à faire en temps réel. Fait que je trouve ça intéressant. Ils me montrent comment bien le faire. Fait que là, je me trouve un miroir pour m'admirer. Puis là, ben, je fais les exercices.
Les exercices,
ouais. Ça, je trouve ça intéressant, mais pour ce qui est de constamment regarder là, le cœur, tout ça, je trouve que c'est blasant.
Ben, c'est parce que c'est pas mis dans un contexte. Nous autres, c'est pour ça que ils nous avaient demandé là-bas, puis à d'autres endroits aux États-Unis, c'est parce qu'on était tous capables de tout mettre en contexte. Tout ce que tu as là-dessus, tu n'es pas capable de le mettre en contexte. Tu as des données.
J'ai pas ta formation non plus.
C'est ça, puis je fais quoi avec ça? Donc, oui, tu peux regarder très souvent ta montre, mais tu sais pas ce que ça donne pantoute, non? Tu sais pas. Tu sais, je regarde, j'ai un de mes clients qui est en France à l'heure actuelle. Il a fait un test de VO2 max progressif avec moi sur vélo. Puis là, il essayait de transposer mes données avec le test de Functional Threshold, là, FTP, qu'ils font en vélo. Là. J'ai dit, écoute, non, mais c'est parce que c'est des données classées généralement que tu as. Là. Moi, je te donne tes données physiologiques à toi. C'est dur pour moi de te faire un transfert sur cet autre monde d'analyse. Fait que les gens se perdent dans un tas de données, pensent que plus ils vont aller loin, plus mieux ça va être. Mais si tu ne sais pas dans quel contexte tu analyses tes données et pourquoi et dans quel but, tu vas te perdre.
Oui, entièrement d'accord. C'est ce que j'ai fait, là, mais pour être très honnête avec toi, j'ai décroché un peu. Là. Je regardais la nuit, mon cœur, il battait à combien de temps. Là, je voyais que ça descendait à 40 battements par minute. Puis là, ma blonde qui est infirmière clinicienne, disait non, c'est sûr que tu descends pas.
Non, mais c'est ça, je te dis, la lecture de ça est pas fiable. Puis si ta montre a bougé dans.
Tu sais que j'avais le cœur d'un athlète olympique, là. Arrête de m'encourager. Je disais, chérie, j'ai le cœur d'un athlète olympique, c'est pour ça que ça descend à 40 la nuit. Elle disait non.
Non, oublie ça, Yannick, c'est ça.
Hey, j'ai vu des stats. Toi, tu t'aides les gens à perdre du poids.
Ouais.
Puis je regardais au Canada, là, c'est 33% des gens qui sont obèses. Au Canada.
Ouais. Puis t'as un autre 30% qui est en surplus de poids. On est à 65% surplus de poids ou obèse.
On s'en sortira pas.
Ah non, c'est la victoire de l'obésité absolue, hein?
C'est vraiment la nourriture qui...
Oh non, hey, non, c'est pas juste la nourriture. Ah oh, ben, OK, je vais te la répéter, celle-là, Yannick. En Amérique du Nord, 95% des gens ont un métabolisme inférieur à 2000 calories. Ouais. La consommation moyenne des calories est de 3500.
3500
calories par jour, alors que la plupart des gens ont un métabolisme inférieur à 2000 calories.
Ça peut pas fonctionner.
Il y a le fait que, il y a plus de sédentarité, donc les gens bougent moins. Mais moi, je suis un gars de données, mais les problèmes des scientifiques comme moi, ce que je déteste le plus, c'est qu'ils font des grandes généralisations. Hein? Là, ils sont tous partis sur la sédentarité. Ils vont dire que c'est la sédentarité, c'est aussi nocif que fumer. Et là, je cherchais, je lui dis, OK, c'est quoi la sédentarité, premièrement? Comment vous la définissez? Et là, je suis allé chercher des recherches scientifiques. Personne n'est capable.
Personne on n'est pas capable de l'évaluer.
On n'est pas capable de savoir. OK, il y a quoi la zone de sédentarité où tu n'as pas d'effet? Je te donne un exemple. Toi, tu es animateur radio, tu es assis la majeure partie de la journée. Mais mettons que tu te lèves et tu marches 5 fois 2 minutes par heure. Tu n'as pas le même impact que si tu restes assis toute ton heure.
Ouais.
Au total, dans la journée, tu as peut-être juste 20 minutes que tu as bougé plus, mais ce 20 minutes-là vient d'annuler ton aspect d'impact négatif de la sédentarité. Il y a tout cet aspect-là. Et l'autre chose que je disais dans un de mes podcasts, on est tout le monde à 100 calories par jour d'un poids santé. 100 calories par jour, c'est 20 minutes de marche. Et au bout d'une année, c'est l'équivalent d'une dépense énergétique de 10 marathons.
Les gens, ils réalisent pas ça. Là.
Non, les gens comprennent pas. Ils veulent faire de l'exercice hot, être beau, les apparences. Lève ton cul, va marcher 20 minutes pépère par jour. Fais 3 fois 10 minutes si tu veux. Tu vas dépenser 100 calories. Fais-le jour après jour. Dans un an, tu es littéralement transformé.
Je le disais à ma blonde, on va se promener le matin avec le chien pour y faire faire ses besoins. Après ça, la fin de semaine, je le sors pour sur l'heure du midi. Après ça, je prends ma petite marche de soir. Je dépense là, des calories.
Mais, oui!
Mais on dirait que les gens, ils s'en rendent pas tout le temps compte. Ils se disent, ah, mais là, c'est juste 20 minutes. C'est 20 minutes que tu n'aurais pas fait autrement si tu ne l'avais pas fait. Là.
Ben oui.
Ça va te donner une chance, en tout cas, du moins. Mais, Doc, philosophons un peu. Là.
Ouais, allons-y.
On est...
On est de vieux sages, toi et moi.
Oui, on est reconnus pour être de grands philosophes. Ça va être quoi l'humain en l'an 3000?
Hey.
La nourriture maintenant, vous avez plus le temps de faire de la nourriture, on va vous la fabriquer, puis on va vous l'envoyer chez vous, livrer. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer à l'épicerie, ça arrive dans une boîte, tu défais ça, tu mets une partie dans ton congélateur, une partie dans le frigidaire, puis tu as ta nourriture pour la semaine, il te reste juste à mettre ça dans le micro-ondes.
Mm.
Après ça, les familles sont de moins en moins grosses, les parents peuvent décéder, là, t'es rendu tout seul au monde, t'as besoin d'une famille, pouf, on va te créer Facebook. Là, tu seras plus tout seul. T'allais au cinéma avant, mais là, on voit que c'est un petit peu plus difficile pour toi d'aller au cinéma. On va te mettre directement le cinéma dans ta télé. Tu vas avoir accès à des millions et des millions de films juste avec ta télé.
Ou dans ton cerveau.
Si on n'a pas des docks bouchés là, sur notre chemin là, pour nous juste tout le temps nous ramener à la base en disant « Regarde, c'est sûr que si tu ne bouges pas, tu vas crever. » Ça va être quoi, l'être humain, en l'an 3000? Ça me fait capoter. Tu peux rester chez vous. Attends un peu.
Tu peux rester assis ou couché 23 heures.
Le trafic! Non, regarde, reste chez vous en face de ton ordinateur. Tu vas faire du télétravail. Tu n'aurais même pas besoin de venir à la job. Ça va être quoi, l'être humain, en l'an 3000?
Ben écoute, les gars, on parlait de 65% d'obésité. Il y a 20% des gens qui bougent en population. Mais on va peut-être atteindre 80% de gens en surplus de poids ou obèses. Des gens branchés de partout qui vont être submergés par la technologie, une surcharge d'informations.
T'as plus besoin de mémoire, ton téléphone, Google est là pour ça.
Oh oui. Puis sauf que, tu sais, le corps humain, c'est toujours utilise-le ou perds-le. Donc, ce que tu ne fais pas, t'es cérébralement, tes neurones, tu perds ta capacité cognitive. Moi, j'allais faire l'épicerie avec mon petit-fils, là, on faisait la liste, là. Et t'as pas noté, là. Elle t'a apprise par cœur. Sais-tu comment? Je te donne un exemple. OK, on s'en va à l'épicerie. On va rentrer. Il y a M. Hot Dog géant qui est là, qui nous attend. Après ça, dans les légumes, tu as M. Brocoli qui est en train de danser. Puis là, on va s'en aller par là, puis il y a un monsieur qui vient d'échapper un paquet d'œufs à terre. Mais lui, il venait de retenir qu'on allait chercher des pains hot dog, on allait chercher du brocoli, on allait chercher des œufs. Peu importe la longueur de la liste, j'avais raconté une histoire, puis il partait, puis il allait chercher tout ce qu'il avait besoin. Mais si j'avais demandé mot par mot, tu comprends? Mais c'est ça, c'est d'aller stimuler. On est rendu lâche. On veut plus faire les choses. On veut plus faire d'efforts. 50% des gens détestent faire de l'exercice. 3/4 des adolescents détestent faire de l'exercice. Et on est encore aujourd'hui, puis on a une faute, les scientifiques, nous autres, là. On est encore à dire aux gens, allez faire de l'exercice. On est encore à faire des pubs avec l'apparence physique. Avec, regarde comment tu vas avoir l'air si tu fais de l'exercice. Puis les gens croient ça. Quand la réalité se résume à 100 calories par jour, mais qui veut m'entendre? Tu comprends que j'ai une petite niche très particulière, là. Qui veut faire ça? Qui...
Ouais, juste le fait d'en jaser, toi puis moi, ça va être quoi l'humain en l'an 3000? Parce qu'à un moment donné, on dirait que la société te fabrique la chance d'être chez vous tout le temps sans sortir. Fait, tu vas pouvoir te nourrir, tu vas pouvoir faire te divertir toutes les affaires de chez vous sans sortir de chez vous. Si les gens adhèrent à ce modèle-là, ils vont tout crever.
Mais Yannick, on est rendu en Amérique du Nord avec des gens qui sont assis ou couchés 23 heures sur 24. Ils se déplacent même plus pour aller faire leur épicerie. Ils se font livrer de la bouffe à la maison. C'est ça. Tu regardes les méga obèses au Canada puis aux États-Unis. C'est ça. Ils se transportent en triporteur puis ils bougent plus, là. Ils veulent plus. Écoute, on avait une amie, nous autres, qui ne voulait pas bouger. Obèse. Elle se penchait même pas pour mettre ses souliers. Elle faisait mettre par quelqu'un d'autre.
Ben, j'ai découvert chez Canadien Tire la semaine passée, c'est une tige.
Oui, oui. Mais la langue, là.
Oui, pour les gens qui sont pas souples, là, je ne sais pas de qui je parle, mais je ne sais même pas pourquoi je suis tombé là-dessus par hasard, mais c'est une tige que tu mets ou ton talon, tu glisses ton pied là-dedans, ça marche un charme. 9,99$ chez Crédit Inter.
Puis,
je ne l'ai pas acheté.
Sur Amazon, tu as la rallonge à papier de toilette? Ben parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont rendus tellement gros que ça se rend plus, là.
Ben voyons donc.
Ben moi, je n'ai vu, là, des
une
gens.
Une rallonge à papier de toilette?
Ben oui. Des gens qui rentrent dans mon bureau, là, qui me disent « Denis, là, c'est parce que je suis rendu, je suis plus capable de me torcher. Ça me prend ma rallonge. » Fait que là, tu as une rallonge, tu clips ton papier de toilette. C'est comme les enfants qui nettoient les toilettes. Là.
Mais non. Ton Denis Boucher, là. Arrête, ça existe pas.
C'est en a plein partout. Les gens ne s'imaginent pas à quel point l'obésité...
Attends un peu, là. Tu me niaises, là.
Non, pas du tout. Hey, je vais te conter l'origine.
Hey, non, c'est une niaise. Ils ont des rallonges pour s'essuyer le péteux.
Non, mais oui, faut que je te conte ça.
Mais attends un peu, là. C'est quoi le signal que t'attends dans ta vie pour te dire « faut que tu maigrisses » Techniquement, ça devrait être ça, là.
Il n'y en a pas. T'es hors contrôle. T'es hors contrôle.
Denis,
la seule chose...
capable de t'essuyer pour aller aux toilettes, là.
Mais je sais, mais...
Faites quoi, là? Va rencontrer ton médecin, prends ta marche à chaque soir.
Yannick, ça, là, ce que je te parle, c'est il y a 20 ans, ou peut-être 25, là, j'ai été engagé par une compagnie pharmaceutique faire le suivi de patients qui prenaient un médicament pour maigrir. OK? Un jour, arrive dans mon bureau, le matin, OK, j'en ai toute la journée, là. La femme qui rentre, elle s'assied, puis elle me dit, Monsieur Boucher, là, c'est parce qu'il faut vraiment que je maigris, c'est parce que je ne suis plus capable de me torcher. Mais moi, je commence dans le domaine. Tu n'avais
jamais pensé à ça?
J'avais jamais pensé à ça. Et là, je mesure la longueur des bras par rapport à la rondeur du cul et je me rends bien compte que ça ne se rend pas. L'après-midi, le gars rentre dans mon bureau. Il dit, Monsieur Boucher, il faut que je maigrisse. Parce que là, je ne suis plus capable de me torcher. Hey, je te jure, je pensais que je passais à surprise.
Ben, Denis, je pensais que tu me niaisais.
Non, non, je ne te niaise pas, là. C'est vraiment ça. Pense-y.
Tu sais, on a tous des peurs dans la vie, là. Puis à un moment donné, je me suis déjà dit, tu sais, un jour, ça va m'arriver, là. Dans la salle, il va y avoir 5000 personnes, puis je vais être le seul taré à ne pas avoir vu ce truc-là dans les 20 dernières années. Ben c'est comme ça que je me ressens là. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient tellement gros qui avaient besoin de rallonge pour aller se nettoyer le poteau après le numéro 2. Sérieux, je me sens vraiment comme un taré.
Non, mais tu pouvais pas l'imaginer. Moi-même, il y a 25 ans, je pouvais pas l'imaginer. Écoute, moi j'étais naïf dans le temps. Je pensais que tout le monde voulait faire de l'exercice, tout le monde voulait être en santé. Hey, j'ai eu mon clash. Hey, y en a un qui rentre. OK? Non, mais je pense que je t'ai compté. Il mesure 1,67 m.
Hey, je m'achèterais un bidet.
Oui, ben oui, t'as pas le choix, là, probablement.
Un turbo bidet, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Robotisé qui va dans tous les coins.
Ouais, puis après ça, je me dirais, OK, là, je peux plus me nettoyer physiquement. Je vais me prendre en main, je m'en vais voir le doc boucher.
Ouais, mais non, hey, ça arrive pas. Hey, y en a un qui rentre, là. Il mesure 1,67 m. Son tour de taille est d'1,57 m. Il est presque aussi rond qu'il est long.
C'est un varibari du boulet fait Kentucky.
Écoute, puis il rentre dans mon bureau, puis il me dit...
C'est Humpty Dumpty.
Ouais. Il me dit, avec ce médicament-là, ça veut dire que je vais pouvoir manger tout ce que je veux. Il vient pas pour maigrir. Hein. Lui, c'est manger. On s'imagine pas à quel point la bouffe est devenue une dope pour beaucoup de gens et que pour beaucoup de gens, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. La seule chose qui va fonctionner, c'est les médicaments comme Ozempic. C'est la seule chose qui va fonctionner. Et il faut être capable de les identifier, ces gens-là, pour être capable de leur prescrire le médicament pour leur bien, pour le bien de la société, parce qu'il y a des avantages au fait qu'ils maigrissent. Mais c'est le seul moyen. Par eux-mêmes, ils n'y arriveront pas.
Moi, j'ai des chums qui ont eu la chirurgie bariatrique. J'en ai deux. C'est pas des chums proches, mais c'est des bonnes connaissances que j'aime bien. Puis les deux m'ont dit que quand ils ont été pour subir la chirurgie bariatrique, les médecins les ont fait maigrir avant.
Ouais.
Pour quelle raison?
Ben, c'est parce qu'il arrive à un moment donné que tes risques de santé sont trop grands.
À cause du cœur?
Ben, t'as le cœur, t'as aussi le poids que tu portes, parce qu'il y a peut-être pas de chirurgie après, là.
Ouais.
Puis il faut que tu fasses la preuve que t'es capable de maigrir. Je connais pas tout l'objectif pour lequel ils le font.
Mais c'est une façon de tester le patient.
C'est une façon de tester le patient aussi.
C'est beau, là, tu vas avoir ta chirurgie bariatrique, mais montre-nous que t'es
déterminé. Faut que tu sois capable de penser qu'après, t'as des comportements à gérer aussi pareil, là. C'est que dans le fond, tu n'es pas capable toi-même de gérer ta bouffe. On réduit ton estomac pour réduire ton appétit. Puis, on va après ça, faut que tu aies des comportements plus sains. Fait que déjà là, on te fait amorcer ça avant. Normalement, il y a des équipes alentour, nutritionnistes, psychologues, pour être capable de tout évaluer ça.
Puis, tu sais, un, entre autres, lui, il s'est aperçu qu'il était obèse, là, puis qu'il était plus capable de continuer comme ça quand il avait été magasiné à Place Laurier. Il est arrivé où son véhicule, puis les deux véhicules qui étaient stationnés, chacun du bord de son véhicule, étaient trop près de sa porte.
Oui.
Fait qu'il pouvait plus rentrer dans son véhicule. Puis il a été là pendant, je pense qu'il a attendu pendant 4 heures de mémoire, là, puis c'est cette journée-là qu'il a dit « OK ». Là, j'étais un gros crise de baisse. Je suis plus capable de me regarder dans le miroir. Ça nuit à ma santé physique et mentale. Faut que je prenne mes décisions. Là, c'est son témoignage à lui, c'est pas mes propres mots, là. Puis il a été justement à l'hôpital pour demander de l'aide. Puis il a eu finalement sa chirurgie bariatrique. Il est passé de 500 à 180.
Wow.
Puis aujourd'hui, il travaille extrêmement fort pour conserver son 180. Puis il s'est repris en main. Mais pour lui, ça a été une renaissance, là.
Ah oui, ben absolument.
Passé de 500 à 180, il y a eu des steps là, où m'emmener mentalement, physiquement, c'était pas facile. Mais à 180 aujourd'hui, c'est une renaissance pour lui.
Mais tu vois pourquoi je te dis c'est la victoire de l'obésité? Parce que les problématiques... Tu sais, je fais beaucoup de blagues, je caricature beaucoup le comportement humain, mais je suis capable de comprendre à quel point c'est difficile la perte de poids, qu'il y a des gens qui n'y arriveront jamais. Il y a des gens qui n'ont pas la volonté de le faire, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de le faire, il y a des gens qui n'ont pas la persévérance pour y arriver, qui ne sont pas assez bien encadrés. Et tout ça fait en sorte que, dans mon domaine, les scientifiques disent « Hey, le gouvernement devrait prendre ça en charge, l'obésité. » Mais je leur demande toujours « OK, oui, c'est quoi ta stratégie? » « Bien, il faut faire la promotion de la santé, de l'activité physique. » « OK, oui, mais comment? » Parce que tu as des jeunes, tu as des gens de 20 et 30 ans, tu as des gens de 30 et 40 ans, puis c'est pas la même clientèle, c'est pas la même vision du monde. C'est pas la... Tu as des méga obèses, tu as des gens surplus de poids, c'est pas la même notion. Fait, on dirait que la science est bornée à se dire la perte de poids, ce n'est que couper des calories et s'entraîner. C'est pas ça. C'est pas juste ça. Ce n'est qu'une partie du problème. Et malheureusement, comme il n'y a pas de consensus, comme les scientifiques sont assez limités dans leur compréhension parce qu'ils vont regarder ça à travers leurs propres lunettes, s'il y en a un qui travaille sur le cerveau, il va regarder ça à travers sa lumière des neurones. L'autre, s'il travaille sur le métabolisme, il va regarder à travers sa lumière du métabolisme comme moi. Mais dans l'ensemble, tout le monde est perdu là, à l'échelle d'une population. On ne sait plus comment y arriver. Puis si on investit de l'argent, pensez que c'est 2 ou 3 générations avant qu'on voit des résultats positifs.
Et si on travaillait en amont? On en a souvent parlé, toi et moi. J'en parle souvent avec Gab du Tonic Gym. Pourquoi le gouvernement ne me donne pas un crédit d'impôt, moi, quand je m'inscris chaque année au gym?
Il devrait, mais c'est, écoute, Yannick, c'est, les gens, ça les intéresse pas, le gym.
Mais le gouvernement devrait me dire « Merci de prendre soin de ta santé, tu t'éloignes de l'hôpital. » Parce que si on le fait pour les gens qui ont négligé leur santé, entre guillemets, des gens qui ont fumé toute leur vie, qui se ramassent avec des cancers des poumons, des gens qui ont pas fait attention à leur alimentation, bon, chirurgie bariatrique, c'est des milliers, des milliers, des milliers de dollars, ça, là. Puis là, ben, en bout de ligne, ça donne des millions et des milliards de dollars. Pourquoi moi, j'ai pas... Quand j'inscris mes enfants au hockey, là, le gouvernement ne me dit pas merci parce que là, tu inities tes enfants au sport, un crédit d'impôt, puis pour ma salle d'entraînement qui me coûte 300, 400 quelques par année, pourquoi ils ne me donnent pas un crédit d'impôt là-dessus aussi?
Parce que c'est plus important pour eux autres de rentrer des taxes que d'avoir des citoyens en santé.
Oui, mais je veux dire, ça coûte cher avoir des citoyens qui sont pas en santé.
Je pense pas qu'ils le voient. Je pense pas qu'ils sont là pantoute, moi. Là, non. C'est... Écoute,
on dirait que t'as abandonné, Denis.
Ben, moi, oui, j'ai abandonné. Tu sais, j'ai pas d'espoir. Moi, je parle de ma petite niche à moi qui va rejoindre un certain type de clientèle.
Ouais.
Mais aller à...
En fait, ce que tu dis, c'est oublier le gouvernement, prenez-vous en main, vous autres. Là.
Oui, c'est ça. Puis si t'attends pour un crédit d'impôt, bon, tant mieux si tu l'as, mais pense aux bénéfices que toi, t'as de faire tout ça. Mais comment je pourrais dire? Moi, j'ai abandonné sur la population en général parce que je sais que ce n'est pas faisable de transformer la vision de la population à grande échelle. Puis le gouvernement n'a rien à foutre. Là. T'sais, on patche des trous. Là. On a de la misère avec le système de santé. Parle-leur pas de faire de la prévention en plus. Et ça n'a pas de sens. Hein. Ils n'y arriveront pas. Il faudrait vraiment... T'sais, moi, c'est sûr que si tu me disais « OK, Denis, on te donne un budget... » Puis tu vas remettre la population en santé, moi, ça sera géré comme une business à grande échelle. Du marketing ciblé, constant, auprès de chaque sous-couche de la population. Chaque sous-couche de population qui a un problème de santé, diabète, hypertension, hypercholestérolémie, tu comprends? tout devrait être organisé pour faire du marketing santé. C'est pas « je t'en parle, Yannick, tu sais, c'est important de faire de ça. » Non, non, Yannick, regarde, tu vas faire ça, tu vas avoir des bénéfices. Puis si tu embarques là, dans le processus, ben voici ce que tu vas en tirer. Puis voici comment on va te féliciter. Puis parle-en aux autres, implique. Tu sais qu'on crée une communauté orientée, exercice. Mais tu sais, personne ne va faire ça. Tu sais, tu as Pierre Lavoie qui le fait à son échelle, qui est assez extraordinaire, mais on s'entend, c'est pour une petite clique.
Ouais.
On ne joint pas la population, on n'a pas changé les gens qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension nécessairement. Hein. C'est tout ça qu'il faut regarder où c'est très limité. Puis malheureusement, les scientifiques ne s'entendront jamais parce qu'ils regardent seulement à travers leurs lunettes. Et je pense que je suis un des gars, je vais être prétentieux aujourd'hui, là, qui comprend le mieux l'obésité. Parce que j'ai tellement analysé le métabolisme, j'ai tellement vu de gens en clinique, en consultation, que je suis capable de comprendre qu'il y a des sous-couches, il y a des couches, puis il y a des sous-couches à travers chaque couche.
Puis avec un peu de volonté, ça se règle. Tu es capable de les aider.
Oui, mais il faut que les gens veuillent.
Exact. Denis Boucher, pour te rejoindre, on fait quoi?
DenisBoucher.com, aussi simple que ça.
DenisBoucher.com. On va faire une courte pause, puis on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Reg against le matin. Le matin.
Boulevard 102A.
Comment ça fonctionne? C'est-tu tout le monde contre les Hells à cette heure? Ou...
Ce qui se produit en ce moment, les Hells avaient l'autorité sur toute la distribution puis allaient chercher la cote. Il n'y a plus personne qui veut la payer. Alors les gens se développent un secteur. Tu veux être le roi d'un secteur? Ben protège-le. Et ils montent, ils grandissent, puis ça, c'est ce principe-là qui s'installe en ce moment. Attendons pas que le crime organisé se régularise par lui-même. Il ne se régularisera pas. Ils vont même tantôt possiblement s'en prendre à l'État. C'est ce qu'on a pensé à une époque. C'est pour ça qu'ils ont donné beaucoup de pouvoir quand ils se sont rendus compte que Mom Boucher, qui n'était pas le président des Hells Angels au Québec, pas une minute, c'était juste une bonne tête brûlée. On tue du monde. Oh, Colin, on prend le territoire. Attends un peu. Les journalistes parlent mal de nous autres. Michel Auger, on essaie de péter.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers, les juges, il y avait des noms sur les listes. Là, ça a changé. Je ne pense pas qu'aucun de ces jeunes-là veut s'en prendre présentement aux policiers, nos journalistes, à court terme. Mais il faut arrêter de penser qu'une fois qu'ils vont avoir grimpé, ils veulent continuer après ça.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
102.1.
Le dimanche 29 septembre, c'est jour de football universitaire au Stade TELUS à Québec. Vivez les matchs du Rouge et Or comme jamais auparavant avec notre toute nouvelle terrasse VIP. Sous un chapiteau chauffé en bordure du terrain, savourez un menu à volonté, avec une vue imprenable pour le match. Profitez d'une expérience premium pour vous et vos amis. Stationnement réservé, menu personnalisé et consommation incluse. Réservez dès maintenant votre place au 418-656-FOOT.
Go le match, go!
Les représentants hypothécaires de Desjardins sont disponibles où et quand vous le voulez. Ils se déplacent à votre convenance 7 jours sur 7. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/représentants.
Allô Nissan, oh, il y a de l'action ici?
Oui, c'est la liquidation Nissan. Karine, parle-en à tes cousins, tes voisines, tes amis. On invite tout le monde à profiter d'offres de location exceptionnelles.
Comme
la fougueuse Nissan Sentra et le Nissan Rogue avec traction intégrale de série offert à un taux de location à partir de seulement 0,99%.
Oh.
Ou l'économique Nissan Kicks à partir de 2,99%. Ils sont tous en stock et prêts à partir.
OK, donc c'est le moment où jamais de prendre la route avec Nissan.
Oui, parce que toute bonne chose
a une fin.
La liquidation Nissan, c'est jusqu'au 30 septembre.
Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Hello.
Allô, comment ça va? T'as l'air fâché.
Ah, ça va mal. Ma plus vieille a des cours en ligne, puis l'Internet coupe tout le temps.
Attends, là, je t'arrête tout de suite, là. Abonne-toi chez Oricom. Leurs connexions fibres sont pas chères, tu seras pas déçu, puis tes ados, ils bouderont plus.
Ah, t'as raison sur toute la ligne. Hey, tu m'as convaincu. Je règle ça aujourd'hui.
Changez pour Oricom dès maintenant. C'est simple et rapide, comme la fibre. Oricom.ca.
Les 5 et 6 octobre prochains, c'est le Marathon Bénéva de Québec. Vous habitez près du parcours où vous voulez encourager les coureurs? Prévoyez vos déplacements. Consultez le ville.québec.qc.ca/marathon pour tous les détails. Un message de la Ville de Québec.
La référence pour trouver les meilleures idées sorties, c'est le Passe-partout Service et Bonne Chère. Vous l'avez toujours en main? Bonne nouvelle, il est encore temps de profiter des offres. Avec votre Passe-partout, vous obtenez des rabais dans plus de 150 restaurants, activités, services et hébergements. Vous avez épuisé toutes les offres de votre Passe-partout? Procurez-vous une copie directement au bureau de l'Antidote Média au 6500 Pierre-Bertrand, bureau 200. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, visitez le passepartout.com.
Vous êtes propriétaire d'une piscine en béton et elle a besoin d'amour? Les experts de chez Piscine LMJ se chargent de la restauration, du décapage au jet de sable, de la peinture, de la réparation du béton et mécanique. Piscine LMJ fabrique également des piscines neuves entièrement en béton sans toile. Vous êtes entrepreneur, architecte ou paysagiste et vous avez un projet incluant une piscine sur mesure? Piscine LMJ peut vous accompagner et vous conseiller. Piscine LMJ, le plaisir de construire. LMJinc.ca.
Imaginez vivre dans un quartier vibrant et en pleine croissance où chaque jour vous apporte confort et commodité. C'est ce que vous offrent les condos locatifs L'Allier à Lévis. Ces unités spacieuses et lumineuses seront disponibles dès juillet prochain. Réservez une visite sur votreallier.com.
Oyez, oyez! Avec une réservation de deux nuits du 15 octobre au 19 décembre, au Chalet en Boiron ajoute deux nuits gratuites à votre séjour. Au Chalet en Boiron, un village de 80 chalets en pleine nature. Réconfort et quiétude au rendez-vous. Au chaletenboiron.com.
Corinne, pharmacienne. Carole, ingénieur. Baptiste, agriculteur. Asma, entrepreneur. Tim, directeur des ventes. Marie, avocate. Karim, omnipraticien. Rio, exportateur. Ce qu'ils ont tous en commun, ils exercent tous leur métier ici et en français. Travailler en français, l'affaire de tous. Un message d'Impératif français.
Vous trouvez que les baisses de taux se font au compte-gouttes? Pas chez Paquette Mitsubishi, où les taux pour votre nouvelle auto baissent gros. Sur les véhicules sélectionnés, obtenez un taux de financement ou de location à partir de seulement 1,99%. Vous préférez louer? Paquette Mitsubishi vous offre le programme d'entretien de 2 ans sans frais. En plus, obtenez gratuitement la garantie prolongée sur tous les VUS 2024. Ça vaut jusqu'à 3 750. Détails chez Paquette Mitsubishi à Lévis.
Saviez-vous que Yannick Marceau ne mange jamais pendant son émission, qu'Audrey Pinchot se désorganise lorsqu'elle parle d'animaux et que la lecture de chevet préférée de Jeff Fortin, c'est les rapports annuels? Maintenant, vous le savez.
Puis on parle aussi d'affaires pertinentes.
Boulevard 102.1, tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
DenisBoucher.com qui est venu faire un tour en studio ce soir.
Je voulais dire que tu étais parti chercher ta rallonge à papier de toilette.
Ouais, tu trouves ça drôle?
Oui. Non, mais c'était ta surprise.
Ouais. Pour les gens qui n'étaient pas avec nous autres là, tantôt, Denis m'a appris qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas capables de s'essuyer tellement ces gens-là avaient pris du poids dans les dernières années, puis qu'il existait des rallonges.
Papier de toilette.
Et je me suis posé des questions pendant genre 20 secondes dans ma tête en me disant « Il niaises-tu? Il attend-tu une réaction de ma part? Si je réagis pas, je vais te sortir de l'air d'un épais? » Pour finalement me rendre compte que, OK, j'étais le dernier des tarés à la terre qui savait pas que ça existait. Là. Je savais pas que ça existait des rallonges pour le péteux. Je suis désolé. Sachez qu'il y a des, il y a des bidets qui existent. Là. C'est...
Je t'enverrai un petit cadeau de Noël avec une petite boucle dessus. Pour toi, Yannick.
Non, mais c'est fou des fois à quel point tu sais, on évolue tout dans cette belle société-là. On a l'impression qu'on connaît à peu près tout ce qui peut exister, puis on fait des petites découvertes une fois de temps en temps, mais normalement, c'est en même temps que tout le monde, ces découvertes-là. Là, je m'aperçois que cette découverte-là, ça fait des années qu'elle existe. Je n'avais jamais entendu
parler. C'est une découverte intéressante qui a eu lieu chez les méga obèses, 300 livres et plus. Ils ont modelé leur corps. OK, pour en faire pour, un modèle, là, comme un mannequin. OK? Puis il modelait le corps de la personne. Puis là, à un moment donné, il la faisait venir, puis il disait, c'est qui, en pointant le mannequin, là, c'est qui cette personne-là? Ben, tu n'en as aucune idée. C'est le corps de qui? Ben, j'en ai aucune idée. Ben, il dit, c'est vous? Ben, oui, non. Je peux pas être gros comme ça.
Il s'était pas regardé.
Non, même s'il se voyait dans le miroir, il n'était pas capable de concevoir qu'en 3D, ça donnait ça. C'est assez... Hey, le cerveau humain, là, c'est une des choses qui me passionne dans l'analyse. Comment on conçoit le monde, comment on le perçoit, comment on se perçoit.
Moi, j'ai mis le trouble chez nous avec ça. Hein.
Ah oui?
On était avec ma blonde, les enfants, puis une des amies à ma blonde, on était aux chutes Kabir Kuba. Sais-tu où?
Pas du tout.
Dans le secteur de Wendake, les chutes sont magnifiques. C'est un beau secteur pour aller se promener. Fait qu'on, c'était notre petite sortie un samedi après-midi. Puis elle m'a emmené, ma blonde, elle trouve que le décor est tellement beau qu'elle veut se faire prendre en photo avec son ami, mais en regardant les chutes, ce qui fait en sorte que T'sais, moi, j'ai leurs deux fesses d'en face. J'étais à genre 3 mètres, puis là, je prends les chutes, plus les deux filles qui sont contentes de regarder la chute. Je prends la photo, puis quand elles m'ont demandé à voir la photo, ils ont regardé la photo, et là, là... Hein?
Voyons! Ça peut pas être moi!
C'est pas nous autres! Puis après ça, ils sont partis au gym. C'est pas une histoire inventée, c'est vraiment vrai. C'est vrai, ben, on dirait, ben, on se voit pas. Là. Non, quand est-ce qu'on se regarde les fesses? Là? Quand est-ce qu'on se regarde les cuisses, les bras?
Ben, on se regarde beaucoup dans le miroir, mais c'est pas c'est une perception.
Ouais,
c'est vu à travers les yeux de notre perception.
Ouais, mais les filles n'ont pas aimé la photo okay. que j'avais prise. Ils m'ont dit que c'était l'angle, là, mais curieusement, ils sont allés s'entraîner.
Ouais, il y avait un petit doute. Hein?
Est-ce que les gens, c'est si dur que ça pour eux? Tu sais, mettons, quelqu'un qui s'entraîne comme moi, là, puis je m'aperçois que je continue à prendre du poids, Denis, même si je m'entraîne. Ça fait des années que c'est comme ça, puis là, je m'en vais te voir, Denis, puis je te dis, Denis, je comprends pas, faut que je perde du poids, puis là, tu te disais, t'es, on va recommencer, on va faire un pas en arrière.
Ouais.
On va revenir à la base. Est-ce que c'est si dur que ça pour les clients qui vont te voir ou les patients, là,
ouais.
De revenir en arrière, de reprendre la base?
C'est un enfer pour la plupart.
Pourquoi?
Tout le monde est drivé à faire plus d'exercices, manger moins, dépenser le plus de calories possible. Et les gens ont la fâcheuse tendance de penser que parce qu'ils s'entraînent beaucoup, ils sont en forme. Faut que je vous rappelle que moi, je n'ai fait que ça, mesurer des conditions physiques et des métabolismes de base dans ma vie. Et les gens qui étaient le moins en forme par rapport au temps qu'ils investissaient sont les gens qui s'entraînaient entre 10 et 15 heures par semaine.
10 et 15 heures par semaine?
Ouais. C'était vraiment des conditions physiques décevantes parce que les gens ne font que s'entraîner. Ils ne gèrent pas leur alimentation. Donc, ils ne gèrent pas leurs dépenses énergétiques, leur rapport calorique en fonction de leurs dépenses énergétiques. Ils n'incluent pas de période de repos. S'ils s'entraînent 6 jours par semaine, puis ils se promènent sur la rue, puis ils voient quelqu'un courir ou un cycliste, ils retournent à la maison, prennent leur kit, puis ils vont le faire. Là. Tu comprends, ils sont dopés à ce point-là. Mm-hmm. Il n'y a jamais de repos, donc le corps n'est jamais capable de récupérer. Et ce qu'ils font, c'est qu'une dégradation constante. Et là, les gens vont de blessure en blessure. Et là, quand... Il m'appelle, puisque exactement, Denis, je comprends pas, je m'entraîne, je mange santé, mais je perds pas de poids. Mais je leur dis, écoute, c'est pas compliqué. Tu es en situation de stress métabolique. Toi, tu penses que l'entraînement puis ton alimentation, qui est probablement pas assez élevée, ton apport en calories pas assez élevé, c'est la seule chose qui compte. Mais tu travailles dans la journée, tu as des enfants, ça, c'est une autre demande. Et ta privation de nourriture avec ta dépense énergétique élevée, ça devient un stress métabolique intense. Et à ce moment-là, tes cellules, ce qui brûle l'énergie, eux autres, ils disent, moi, je les appelle les petits rogers, là, ce qui brûle l'énergie dans ton corps, eux autres, ils ne sont plus capables. Là. Alors, ce qu'ils disent, bien, regarde, moi, je suis nettement moins efficace. Le métabolisme va ralentir, la condition physique va ralentir, puis je vais stocker plus de gras. Et quand je leur dis, là, il faut faire un pas de recul, tu vas moins t'entraîner, tu vas manger plus, les gens vont me dire, oui, mais est-ce que je vais perdre ma condition physique? Mais je vais leur dire, c'est parce que tu n'en as pas de condition physique. Tu as l'illusion d'avoir une condition physique parce que tu t'entraînes en imbécile. Mais c'est zéro résultat par rapport au temps que tu investis. Et là, on va remodeler ça en fonction de ton métabolisme et en fonction de ta condition physique et en fonction de ta vie pour être sûr qu'on ne crée pas de stress. Et là, ton métabolisme va se mettre à brûler de l'énergie, à brûler du gras et tu vas maigrir. Mais les gens ne sont pas capables de comprendre qu'on va faire un pas de recul pour te faire avancer, te faire progresser sur 3 mois, 6 mois. Puis après, on va rentrer de l'exercice de plus haute intensité, mais de façon plus intelligente, avec des périodes de repos, mieux structurées en fonction de tes capacités. Et là, tu vas évoluer. Les gens ne sont pas capables.
Tu m'avais pas raconté aussi qu'avec avec les techniques que tu avais mises en place, les gens, ils s'alimentaient plus qu'avant tout en s'entraînant. Puis
ben
c'est
oui.
Ce qui les surprenait.
Ben oui, absolument.
Denis, je mange plus qu'avant, mais je maigris.
Oui. Parce que tu ramènes ton métabolisme dans un niveau où il est totalement efficace. Et là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a besoin d'énergie. Donc, il prend l'énergie des protéines, lipides, glucides. Les petits rejets, il les transforme en énergie utilisable par le corps humain. Et là, tu brûles l'énergie. Et comme tu brûles l'énergie, ben, tu vas aller en chercher dans tes cellules adipeuses. Tu vas brûler du gras, puis tu vas maigrir. Ça, c'est l'équilibre métabolique. Être capable de donner à ton métabolisme en fonction du contexte. Si tu t'entraînes trop, on va diminuer, puis on va tout replacer en équilibre. Et les gens font moins d'efforts, sont moins épuisés, ils se mettent à maigrir, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont pognés dans un monde de croyances qui est là depuis 30, 40 ans. Là. Moi, quand j'ai commencé mes études dans les années 80, là, c'était déjà ça. Puis c'est ce qu'on nous enseignait, c'était des principes présentés des années 70, parce que les profs ne s'étaient pas forcés pour changer leur cours depuis 10 ans. Tu comprends? Fait que là, et ça, ça perdure encore aujourd'hui, malheureusement. Mais sur le plan physiologique, on est tellement rendu beaucoup plus loin dans la compréhension du métabolisme, mais le message ne passe pas. Parce que c'est 40 ans, presque 50 ans, de taper sur le clou à dire au monde « mange moins, entraîne-toi plus ». Et on a donné de la valeur au fait d'avoir l'air épuisé à l'entraînement. Moi, quelqu'un qui s'épuise à l'entraînement, je pars à rire. Je suis toujours en train de dire « quel foutu crétin ». Parce que c'est pas une garantie que tu t'épuises à l'entraînement, que tu vas avoir des résultats.
Mm-hmm. Est-ce que... moi, je déteste m'entraîner le matin. Là, mais sais qu'il y en a qui adorent s'entraîner le matin. Fait que je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a en s'entraînant le matin. C'est quoi les bénéfices? Puis à quel point ça doit être donc bien excitant de s'entraîner le matin. Je l'ai fait une couple de jours. Je me sens pas mieux. Ce que je me posais comme question quand je m'entraîne le matin, Denis, est-ce que je mange avant ou après?
Avant et après.
Les deux.
Les deux. Tu peux pas aller t'entraîner pas de calories. Moi, le monde qui me dit là, c'est plus efficace s'entraîner sans avoir mangé, allez tous vous faire foutre. C'est pas vrai. Ton corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Si t'as été 8 heures sans manger.
Ben, des fois, c'est plus que ça.
Des fois, ben oui, 10, des fois 12 heures.
Tu te couches à 10 heures, tu te lèves à 6, ça fait bien 8 heures, ça, c'est ça. Puis là, tu te dis, ah, je vais aller m'entraîner, tu déjeunes pas. Ça fait quand même, là, t'es rendu à 9 heures quasiment de, sans manger. Puis là, t'as besoin d'énergie. De calories pour avancer.
Parce que là, tu vas brûler de l'énergie à l'exercice. Mais d'où elle vient cette énergie-là? Elle vient pas du vent. Hein? Elle vient de ce que tu as mangé. Et là, toi, tu penses que fonctionner sur des réserves d'énergie vide, tu vas obtenir des résultats meilleurs physiologiquement. Aucun sens.
Fait qu'il faut que je mange tout le temps un peu avant.
Tout le temps un peu avant. Carrément. Moi, tu vois, quand ce matin, je suis allé m'entraîner. Là.
Ouais.
Okay? J'ai mangé 2 rôtis, beurre d'arachide, 1 tasse de lait. Je suis allé m'entraîner. En revenant, j'ai mangé. C'était parfait. Si j'avais pu, je l'aurais fait pendant aussi.
Okay.
Mais j'aime pas les poutres de perlimpinpin et d'autres affaires du genre.
Bon, fait que là, je vais toujours recommencer. Je vais m'en réentraîner le matin. Il faudra que je mange avant.
Yannick, il y a des rythmes circadiens. Il y a des gens qui s'entraînent mieux, qui ont plus de résultats le matin. Il y en a plus de midi puis il y en a plus le soir. Si tout dépend de ton rythme biologique à toi.
Ouais. Si mais j'ai pogné un 2 minutes, par exemple. Là, je ne pensais pas que ça bougeait autant à Québec dans certains gyms. Là, les gars et les filles, à 6 heures le matin, ils s'en vont faire du CrossFit.
Ah, il faut vouloir, hein?
Moi, j'étais allé au bench. J'ai relaxé un peu, mais c'est tiré un peu. J'ai fait quelques exercices, mais quand je regarde l'autre bord, je veux dire, sont dans une autre catégorie.
Oh, oui, c'est un autre monde qui ne m'intéresse pas.
Non? Non, c'est vraiment. Trop intense.
Ben, c'est trop intense. Hey, tu savais comment, déjà, j'ai arrêté de faire du CrossFit puis des affaires de spinning du genre?
Ça donne des belles shapes, là. Le CrossFit, là, pour les gars puis les filles, ça... Ben, pour les filles, des fois, ça élargit peut-être un peu trop les épaules, là, mais ça donne des maudites belles shapes, là.
Ouais. Écoute, j'ai un gars avec une maudite belle shape qui est venu me voir puis dit « Doc, je fais du CrossFit puis j'ai 2 genoux scrap. »
Ouais.
Tu sais, tu comprends, puis c'est ça. Il y a comme, tu sais, il y a toujours la... Les apparences, puis en arrière, comment fonctionne la machine? Est-ce que tu fonctionnes sur des blessures récurrentes? Est-ce que tu es toujours épuisé? Tu sais, ça devient une religion, ces affaires-là. Là. Puis là, tu n'arrêtes plus. Là. Puis là, tu ne veux plus perdre ta shape. C'est tellement de choses intéressantes à regarder.
Quand tu es rendu là, avec ces shapes-là, moi, j'y regarde aller. Ils ont l'air d'athlètes olympiques. Mais ils vont pas aux Olympiques, là, mais ils ont une shape d'athlète olympique.
Oui, tu sais qu'ils ne pourraient pas aller aux Olympiques. Hein? Parce que c'est trop général, le CrossFit. C'est pas spécifique.
Il va-tu y en avoir un jour de ces compétitions-là? Vous
allez... Ben, je sais pas comment ils vont standardiser. Moi, j'en avais un client qui faisait du CrossFit, puis il voulait que je l'entraîne pour ça. Puis je disais, OK, ta prochaine compétition, c'est quoi? Ah, ben, je le sais pas. On le sait juste quand on arrive, c'est quoi qu'on a à faire. OK, tu veux que je t'entraîne pour quoi? J'en ai aucune idée. Fait que, tu sais, c'est.
Mais il y a des trucs de base, là, de ce que je comprends.
Oui, mais écoute, moi, c'est comme. Il y en a qui font très bien ça. Là. J'ai vu d'excellents entraîneurs là, là-dedans. Là. Florian Bianchi, que je connais.
Ben oui.
C'est du kingpin dans le domaine. Là. Il y a des places, là, je peux te dire, que, oh mon Dieu, je disais à mes clients, sortez de là.
Mais la bonne nouvelle, là, moi, je vois au Tonic Gym, là, je vois de plus en plus de personnes âgées qui font de l'exercice. Tu sais, quand j'étais jeune, là, je m'entraînais au Gold Gym. Tu dois avoir connu ça.
Ben oui.
Quand j'étais jeune, je m'entraînais au Gold Gym.
Bon, mon chum Bruce Cashman, t'as peut-être connu, je sais pas si ça dit de quoi, Il avait fait ses études en activité physique avec moi à l'époque.
Ça me dit quelque chose.
Qui était culturiste, là. Ouais.
Mais, pas un petit gars. Quand j'étais jeune, j'en voyais pas des gars comme nous autres de 40, 50, 60, 70, 80 ans. Puis là, j'en vois de plus en plus.
Ouais.
Des hommes qui décident de se reprendre en main. Un jour, je voyais un monsieur, puis j'ai demandé quel âge qu'il avait. 80 ans, il faisait des redressements assis. J'en fais même pas moi tellement que je trouve ça difficile.
Hey, t'as-tu vu la shape du gars? 85 ans, concours de culturisme naturel.
Mais comment ils font pour garder leur masse musculaire à cet âge-là?
Ah,
elle n'est pas supposée fondre.
Non, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Si tu stimules ta masse musculaire, c'est drôle, OK? C'est partiellement faux ce que je vais dire, mais c'est juste donner une image qui va faire comprendre aux gens. Ta masse musculaire ne vieillit pas. Elle fond si tu ne l'utilises pas. Mais si tu l'utilises et tu t'entraînes comme un culturiste, à 80...